26. Hodges se laisse piéger par la circulation à l'heure de pointe et n'est de retour dans le North Side qu'un peu après 18 heures. Jérôme et Holly sont encore avec lui. Tous deux veulent aller au bout de cette aventure, quelles qu'en soient les conséquences. Et comme il semble comprendre la portée que peuvent avoir ces conséquences, Hodges a décidé qu'il ne pouvait le leur refuser. Il n'a pas vraiment le choix, à vrai dire. Holly refuse de dévoiler ce qu'elle sait, ou pense savoir. Hank Bisson sort de chez lui et traverse la rue avant même que Hodges ait arrêté la Mercedes d'Olivia Trelawney dans l'allée des Hartsfield. Hodges soupire et abaisse la vitre côté conducteur.
« J'aimerais bien savoir ce qui se passe, » dit Bisson. « Est-ce que ça a un rapport avec tout ce barouf dans Lowtown ?»«
Monsieur Bisson, » dit Hodges, « j'apprécie que vous vous sentiez concerné. Mais vous devez rentrer chez vous et... »«
Non, attendez !»
dit Holly. Elle est penchée par-dessus la console centrale de la Mercedes pour pouvoir regarder Bisson en face.
« Dites-moi comment parle Mr. Hartsfield. J'ai besoin de connaître le timbre de sa voix. »
Bisson paraît interloqué.
« Ben, comme tout le monde, j'imagine. Pourquoi ?
A-t-il la voix basse ? Plutôt baryton ?
Vous voulez dire comme un de ces gros chanteurs d'opéra ?» rigole Bisson. « Fichtre non ! C'est quoi cette question ?
Pas au perché, ni aigu non plus. »
Bisson se tourne vers Hodges.
« Votre coéquipière est folle ou quoi ?»«
Rien qu'un peu, » se dit Hodges. « Répondez juste à la question, monsieur. »
« Ni basse, ni au perché, ni aigu, normal. Qu'est-ce qui se passe ?»«
Pas d'accent ?»
insiste Holly.
« Genre, du Sud ? Ou de Nouvelle-Angleterre ? Ou de Brooklyn, peut-être ?»«
Non, je vous l'ai dit. Il parle comme n'importe qui. »
Holly se rassoit dans son siège, visiblement satisfaite. Hodges dit « Entrez chez vous, monsieur Bisson, s'il vous plaît. » Bisson renifle, mais obtempère. Il s'arrête au pied de son perron pour jeter un regard noir par-dessus son épaule. Un regard que Hodges a déjà vu quantité de fois. Le regard incendiaire qui dit « C'est moi qui paye ton salaire, connard !» Puis il rentre en claquant la porte derrière lui pour qu'il comprenne bien le fond de sa pensée. Bientôt, le voilà qui réapparaît à sa fenêtre, les bras croisés sur la poitrine. Et s'il appelle le commissariat de quartier pour savoir ce qu'on fabrique ici ? Demande Jérôme depuis la banquette arrière. Hodges sourit. Un sourire sombre, mais un sourire quand même.
« Je lui souhaite bonne chance pour joindre les flics ce soir. Allons-y. »
Il les précède dans l'allée étroite entre la maison et le garage et consulte sa montre. 18h15, il se dit. C'est fou comme le temps file quand on s'amuse. Ils entrent dans la cuisine. Hodges ouvre la porte du sous-sol et tend la main vers l'interrupteur.
« Non !» dit Holly. « Laissez éteint !»
Il l'interroge du regard, mais Holly est déjà tournée vers Jérôme.
« C'est toi qui dois le faire. Mr. Hodges est trop âgé, et moi je suis une femme. »
L'espace d'un instant, Jérôme reste indécis, puis il pige.
« Contrôle, c'est pour les lumières ?»
Elle hoche la tête. Son visage est tendu, ses traits tirés.
« Ça devrait marcher si ta voix ressemble assez à la sienne. »
Jérôme s'avance sur le seuil, s'éclaircit timidement la gorge et dit
« Contrôle !»
Le sous-sol reste obscur. Hodges intervient.
« Tu as une voix naturellement basse. Pas de baryton, mais basse. C'est pour ça que tu parais toujours plus âgé au téléphone. Essaie de relever un peu le timbre. »
Jérôme répète le mot et les lumières du sous-sol s'allument. Holly Gibney, qui n'a pas vraiment eu une vie de sitcom jusqu'ici, rit et applaudit.